I'm turning now to that very well-known psalm, Psalm 23 and verse 1, the Psalm of David.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans ce psaume très connu, le psaume 23, verset 1, un psaume de David, le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et notre sujet, c'est le roi David et sa conception de la vie. Personne ne conteste le fait que c'est une composition poétique extraordinaire. Mais ce que les gens réalisent peu, c'est qu'en même temps, c'est la conception de la vie du roi David qui est là dans ce psaume, son attitude envers Dieu, sa relation avec Dieu, comment il a cherché, il a trouvé le Seigneur, comment il marche avec lui à présent. Il y a tant de choses dans ces quelques versets du psaume 23. David nous dit comment il se voit lui-même devant Dieu. Le psaume 23 est une explication spirituelle de la vie de David, de son expérience, et ce psaume est très riche. Il y a beaucoup de métaphores également, et cette métaphore principale, c'est celle d'un berger qui prend soin de ses brebis. Les Israélites étaient des experts en brebis et bergers. C'étaient des gens qui gardaient des brebis, d'autres animaux également, mais depuis le livre de la Genèse, vous pouvez voir dans leur histoire que les brebis sont les animaux les plus nombreux. Ils savaient exactement comment les garder. David lui-même avait un grand troupeau de brebis et il gardait les brebis pour son père. Durant sa jeunesse, il était souvent avec les brebis. Il a eu beaucoup d'aventures, d'expériences avec ses brebis. Il était un expert, même si maintenant, quand il écrit ce psaume, il est un roi. Et ce n'est pas surprenant qu'il utilise cette métaphore. Je suis sûre que chacun d'entre vous, vous savez que en Orient, à l'époque, il y avait les brebis qui suivaient le berger. Nous qui sommes des gens de la ville, nous pensons que les brebis sont gardées par un chien de berger. Mais les brebis suivent le berger. Et ceci, cette image est à l'esprit de David dans ce psaume. C'est là sa conception de la vie. C'est extraordinaire avec le roi David. Il était un roi, un grand roi. Un grand général, un roi extraordinaire, et son pays était constamment attaqué par ses ennemis. Il était responsable de la défense du pays et il a dirigé de grandes guerres. Et pendant une grande partie de sa vie, il était un grand général. Et c'est rare d'avoir un général qui a ses dons poétiques et ses dons musicaux. Un homme vaillant et cependant un homme avec un cœur si tendre. Et cette capacité également d'exprimer ces choses profondes dans cette poésie. La poésie en hébreu fonctionne différemment de notre poésie actuelle, mais ceci est merveilleux. L'Éternel est mon berger. D'une certaine manière, vous pourriez penser que c'est une chose arrogante que de dire ceci, en particulier quand vous observez dans votre Bible que le terme L'Éternel est là en lettres majuscules, c'est-à-dire que c'est une traduction du terme hébreu Jéhovah ou Yahvé, le nom de Dieu qu'on ne peut pas mentionner, dont le nom est si glorieux, si grand qu'on le respecte et qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, il ne le prononçait pas à l'époque. Ainsi, dans notre Bible, c'est l'Éternel en majuscules. C'est là la traduction ici. C'est un nom très particulier. Le nom du Seigneur, l'Éternel, signifie celui qui existe par lui-même, le grand je suis, le Dieu qui est, le Dieu qui n'a besoin de rien en dehors de lui-même, qui n'a pas besoin d'énergie, de nourriture, de substance, de direction, d'enseignement, rien en dehors de lui-même. Tout est contenu en lui-même, tout ce dont il a besoin. Il est le seul Dieu qui existe par lui-même, qui est suprême, et qui se suffit à lui-même dans l'univers et au-delà. C'est là le grand nom de Dieu, le Dieu tout-puissant, la source de toute la vie, la source de toute énergie, la source de toute connaissance, la source de tout, le créateur de toutes choses. est celui qui soutient toutes choses. C'est Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, le Seigneur, l'Éternel. Non pas le terme Seigneur qui est utilisé par le roi David, qui signifie mon dirigeant, mon chef. Non, c'est le nom divin du Dieu qui se suffit à lui-même. Et pour ajouter à ceci, il dit l'Éternel est mon berger. Comme je l'ai dit, ceci semble arrogant. David semble dire que le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, et il est mon berger pour moi personnellement, celui qui pourvoit pour moi, c'est-à-dire qu'il me connaît, moi, et il a montré son amour pour moi. Il a déversé de sa grande ressource céleste, sa puissance, sa bonté sur moi. Ce serait une chose arrogante que de dire cela, mais David ne pense pas à ces choses d'une manière arrogante. Il est simplement émerveillé que ceci puisse être le cas, que le Dieu Tout-Puissant puisse penser à lui, une pauvre créature. Il sait qu'il est si petit devant Dieu, un pécheur pardonné par Dieu, un homme faible et misérable et pécheur. Nous pensons que c'est un roi extraordinaire, mais lui se voit dans sa faiblesse et il est si émerveillé que ce Dieu Tout-Puissant lui fasse grâce à lui et cette relation avec lui et soit son berger et l'aide. Oh, il savait tout par rapport aux bergers et aux brebis, parce que lui-même était un berger. Il a pris soin de ses brebis tendrement et il a pourvu pour les brebis blessées. Il les a dirigées et il les a amenées vers les pâturages, les bons pâturages, jour après jour, pendant de nombreuses années. Il connaissait également tous les animaux, les bêtes qui pouvaient attaquer le troupeau et il les défendait. Il savait tout par rapport aux bergers. Le Dieu Tout-Puissant au ciel est mon berger personnel. Et il le dit parce que c'est le cas. Il a ses preuves sûres dans sa vie. Il sait que c'est là la relation qu'il a avec le Dieu Tout-Puissant. Et cette situation extraordinaire, c'est là ce dont parle ce psaume. L'Éternel est mon berger. C'est simplement pour introduire. Et le premier point qui est là au verset 1, « Je ne manquerai de rien. » Ou comme nous pouvons dire ici, de nos jours, « Je n'aurai aucun besoin. Je ne manquerai de rien. » Faites attention, chers amis, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez un psaume tel que celui-ci, nous devons être raisonnables dans notre façon de le lire. S'il commence par « L'Éternel est mon berger », nous savons que ce psaume parle de choses spirituelles, ces choses que nous recevons de Dieu. Ce psaume ne parle pas de l'argent, la richesse, la prospérité terrestre. Ce psaume ne parle pas non plus de la santé, même si Dieu prend soin de nous en tant de choses de manière pratique. Mais ce psaume ne parle pas de la richesse, de la pauvreté de David, s'il aura des beaux habits ou non, s'il aura de la nourriture ou pas. Non, ceci parle de choses spirituelles, de ces choses que Dieu donne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De ces choses qui viennent de Dieu, je ne manquerai de rien. C'est là ce dont parle ce psaume, c'est un psaume spirituel. Ne vous précipitez pas dans ce psaume pour voir des bénédictions terrestres et des richesses. Non, mais voyez ces choses spirituelles. Et le dernier verset, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » J'habiterai dans la maison de l'Éternel. David n'habitait pas dans la maison de l'Éternel. Il vivait dans sa propre maison. C'est une autre métaphore qu'il utilise ici. Il parle d'habiter dans la maison de l'Éternel, dans sa vie spirituelle. Il est avec le Seigneur. Il lui parle. Il est près de lui. Dieu le bénit et l'aide. Ceci parle de sa marche spirituelle. Ce sont des métaphores qui ne sont pas vraies physiquement, littéralement. Et voici au verset 1, « Je ne manquerai de rien ». C'est là notre premier point. Si vous n'avez pas le Seigneur, alors qu'est-ce que vous n'aurez pas? Quels seront vos besoins? Qu'est-ce que vous raterez? Vous n'aurez pas forcément besoin d'argent. Peut-être vous êtes très riche et vous ne croyez pas dans le Seigneur. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent, de beaux habits et vous avez beaucoup de choses sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'il vous manquera en n'ayant pas le Seigneur ? N'oubliez pas, c'est là une illustration qui parle d'un berger et de ses brebis. L'Éternel est mon berger, nous sommes les brebis. Comme les brebis ne peuvent pas faire certaines choses par elles-mêmes, elles ne vont pas nécessairement trouver leur pâturage idéal et toutes sortes de choses elles ne peuvent pas faire. Elles ont besoin des soins du berger. Sans le Seigneur, il y a certaines choses que nous n'aurons pas et qui nous manqueront. Quelles sont ces choses dans ce psaume spirituel ? Premièrement, vous n'aurez pas de secours pour votre âme. Votre âme a besoin d'être sauvée et secouru. Nous sommes des pécheurs contre Dieu. Chacun d'entre nous, nous l'avons offensé, nous l'avons ignoré. Nous avons péché contre ses lois saintes et nous sommes sous la condamnation de Dieu. Nous sommes loin de lui, séparés de lui. Nous sommes séparés de sa bénédiction. Sans lui, il n'y a pas de pardon. Sans Christ, qui est venu du ciel sur cette terre, pour prendre la condamnation du péché pour tous ceux qui croient en lui et qui viennent à lui. Sans lui, il n'y a pas de pardon. Si le Seigneur n'est pas notre berger, alors nous ne sommes pas pardonnés. Nous n'avons pas de compréhension des choses spirituelles. Nous ouvrions la Bible et elle est voilée pour nous, nous ne la comprenons pas. C'est un livre qui est compliqué. Sans Dieu, il n'y a pas cette aide d'en haut pour comprendre la vérité de Dieu et la signification de la parole de Dieu, la signification du monde et pourquoi nous sommes là et le problème de la nature humaine. Nous ne comprenons aucune de ces choses sans l'aide de Dieu. Votre premier grand besoin, c'est le pardon de Dieu, chers amis. Votre deuxième grand besoin, c'est la lumière, la compréhension sur votre situation et par rapport à la vie. Au monde, sans Dieu, nous n'avons pas ces choses. Nous n'avons pas la puissance de transformation de Dieu dont nous avons besoin dans notre vie. Si vous venez à Dieu, quand vous venez à lui, vous passez par une expérience qui s'appelle la conversion. C'est la transformation de votre vie quand Dieu vous donne cette nouvelle nature, cette réponse à vos prières, une nouvelle façon de réfléchir. La vie spirituelle vous est donnée de manière à ce que vous puissiez prier et avoir cette relation avec Dieu et vous devenez une nouvelle personne par l'aide de Dieu. Vous devenez une personne différente. Le péché qui était votre ami devient votre ennemi. Il y a une grande transformation dans votre cœur et Dieu met à la lumière toute notre méchanceté dans notre nature. Et même si nous péchons encore après, mais nous combattons contre le péché et nous avons une nouvelle force, un nouveau caractère, une nouvelle nature pour combattre le péché. Mais vous n'avez pas ceci, vous êtes encore la victime de votre mauvais caractère, de votre péché si vous n'êtes pas converti. Mais s'il y a cette transformation en vous par la conversion, vous êtes une personne complètement nouvelle, vous avez cette communion avec Dieu et sans le Seigneur, vous n'avez pas cela. Si le Seigneur n'est pas mon berger, je n'ai pas cette communion avec lui, je n'ai pas la conversion, la nouvelle nature, je n'ai pas cette compréhension de la vie de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il me demande, de ce qu'il requiert de ma part, je n'ai pas son pardon. Mais David peut dire, parce qu'il parle spirituellement, l'Éternel est mon berger, le Dieu éternel tout-puissant est mon berger. C'est pourquoi je ne manquerai de rien. Et il pense à ce besoin si important de la vie. Et vous aurez cette aide dans votre vie. Sans Dieu, vous n'avez pas cet ami au ciel. Il ne peut pas entendre vos prières et y répondre. Il ne peut pas vous diriger, vous fortifier, vous encourager dans la détresse, vous aider dans votre situation à faire face, mais vous êtes seul dans cette situation. Et à la fin de cette vie, quand la lumière de ce monde s'éteint et que la lumière du monde à venir, de l'éternité, s'allume, alors vous serez terrifié. Parce que vous n'aurez pas cette place au ciel, vous n'aurez pas le pardon, vous n'aurez pas Dieu, vous n'aurez pas cette citoyenneté au ciel. Ce sont ces choses dont parle David dans ce psaume, quand il dit « Je ne manquerai de rien ». Rapidement, le prochain verset nous dit comment il arrive à cette position, comment trouver le Seigneur et le connaître et pouvoir dire ceci avec beaucoup d'assurance. Je ne manquerai de rien. Voyez le verset 2. C'est une belle métaphore du berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ces verts pâturages, en hébreu, c'est une herbe tendre, une herbe toute nouvelle, c'est important. Les brebis sont amenées dans un endroit où il y a une bonne pâture, un beau pâturage, jeune, vert. Les brebis resteront là pendant des mois, pendant des années. Elles sont satisfaites là parce qu'il y a tant d'herbes tendres. Et cette herbe qui est protégée là, les brebis n'ont rien fait, n'ont pas même trouvé les pâturages. Mais c'est le berger qui les a amenés à cet endroit. Pour ces brebis, tout est gratuit, libre. Et tout leur est comme donné, ou tombé dessus, si vous voulez. Des verts pâturages. Qu'est-ce que cette métaphore signifie? David nous dit que cette relation qu'il a avec Dieu, qui l'amène au pardon, à la vie nouvelle, qui lui donne la vie spirituelle, cette citoyenneté au ciel, vient par la grâce uniquement. Pas plus que les brebis méritent cette belle herbe verte où on fait grandir ou pousser l'herbe ou mérite quoi que ce soit. Non, c'est le Seigneur qui a tout fait. Il a pardonné mon péché gratuitement. Moi, je ne l'ai jamais mérité. Il ne m'a pas dit, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois vivre une vie parfaite pendant 6 mois, tu dois t'abstenir de ceci, de cela et de ceci et faire toutes ces bonnes œuvres. Il n'a rien imposé dans ma vie parce que je ne pourrai jamais faire ces choses. Je ne pourrai pas exercer ce degré de perfection, de justice et de bonté que Dieu requiert de notre part parce que je suis un pécheur perdu qui a chuté loin de Dieu. Je peux faire toutes les bonnes résolutions du monde et je vais les transgresser en 10 minutes, en moins de 10 minutes. C'est là notre problème. Et voyez-vous, tout vient par grâce. J'essaye souvent d'expliquer la différence entre l'Église catholique et l'Église qui croit dans la Bible. L'un croit dans le salut par les œuvres. Faites ceci, faites cela, allez à la messe, faites ceci, allez confesser, etc. Faites, faites, faites. Et faites toute votre vie, et alors peut-être vous irez au ciel. Mais non, la Bible dit il n'y a rien que vous pouvez faire, mais simplement priez à vos genoux et confiez-vous dans Jésus-Christ qui est venu pour mourir pour les pécheurs et pour donner le salut de manière non méritée à tous ceux qui se confient en lui. Confiez-vous en lui seul, et tout est par grâce. Voyez-vous la différence? C'est la grâce et les œuvres. Et David explique ceci d'une manière merveilleuse. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui a tout fait, c'est le berger qui a tout fait, il a tout pourvu. Et il me dirige dans cette compréhension et dans cette vie nouvelle, dans le pardon, dans le salut. Et la Bible vous enseigne que tout est en Christ. David, dans d'autres psaumes, a prophétisé la venue de Christ. Il a prophétisé sa venue, sa mort à la croix, il a prophétisé sa résurrection. Chers amis, la Bible parle du Sauveur de Christ. La Bible promet sa venue et explique comment il est venu, qu'il a souffert, qu'il est mort pour les pécheurs, comment il est ressuscité. Il était Dieu qui est devenu homme pour nous représenter. Et dans son grand amour, il a pris la condamnation du péché pour tous ceux qui sont ses enfants, qui viennent à lui. Ainsi, David ici parle de la grâce. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Les brebis ne savent pas où aller. Il y a les verts pâturages, il y a ces eaux paisibles, tout ce dont les brebis ont besoin. Elles ont été amenées par le berger et elles le prennent librement. Gratuitement, c'est ainsi que nous recevons le salut de Dieu, nous confessons notre péché, nous confions en Jésus-Christ, nous croyons en lui, en son expiation pour les pécheurs, nous nous confions en lui seul, non pas en notre mérite ou en notre propre justice, mais nous nous confions en lui seul. Ensuite, il nous convertit, il nous transforme et il nous bénit. Au verset 2, et là, ce grand principe de la grâce. Et le troisième point au verset 3, il restaure mon âme. Le troisième point, c'est la conversion. C'est là ce dont parle ce verset. Il restaure mon âme. Là, dans ce verset 3. C'est-à-dire, vous pourriez traduire ce terme par « il renouvelle mon âme ou ma vie » ou « il revivifie mon âme ». Tous ces termes sont bons. En hébreu, cela signifie « il convertit mon âme ». Il me transforme, il me revivifie, il me renouvelle, il me restaure ma vie entière. C'est là la conversion. David explique pourquoi il croit et il est sûr que le Seigneur est son berger. Il restaure mon âme. La conversion est une expérience merveilleuse, chers amis. Auparavant, vous êtes un pécheur misérable, qui a besoin du Seigneur, un cœur brisé, ô combien j'ai été misérable et insensé, je l'ai rejeté, je l'ai ignoré et je mérite de mourir, je mérite la condamnation éternelle, loin de Dieu. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi de mon péché, dans ta grâce uniquement. Seigneur, fais-moi grâce et renouvelle-moi. Et transforme-moi. Et c'est là ce qu'il fait. Et alors, vous êtes conscient qu'il vous a transformé. Vous êtes une personne différente. Et même si, peut-être il y a quelques semaines, vous ne saviez pas si vous vouliez suivre le Seigneur ou pas, vous ne saviez pas si vous vouliez prier pour le salut ou pas, vous ne savez pas si vous vouliez plutôt fuir et partir à des milliers de kilomètres, et les gens devaient vous persuader. Et vous étiez très défensif, vous disiez « Oh, je ne veux pas être chrétien, je veux vivre pour moi-même, pour mes ambitions, pour ce monde, pour ma réussite, pour mes plaisirs, et faire de l'argent, et être riche, et avoir ce péché ou celui-là, et je ne veux pas venir au Seigneur. » Mais quelque chose s'est passé dans votre vie, et vous êtes comme émerveillé, vous avez reçu le pardon, et vous êtes si honteux à cette pensée que vous l'avez rejetée. Et maintenant, vous ouvrez la parole de Dieu et vous prenez plaisir à entendre la parole de Dieu, à la lire. Et vous aimez venir à l'église, vous aimez les frères et sœurs, et vous aimez le servir et l'adorer. Et vous le priez, et le Seigneur entend vos prières, et vous ne saviez pas auparavant que ceci pouvait se passer. C'est là la conversion, vous êtes profondément transformé. Dans de nombreux aspects, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant, je veux plaire au Seigneur, je veux faire ce qui est juste. Ma conscience est blessée quand je chute, quand je pêche. Je ne voulais pas faire cela et je me repens de mon péché. Je suis sur le chemin de la justice. Je veux, avec l'aide de Dieu, m'améliorer à cause de son nom, parce que je sais que maintenant qu'il a touché ma vie, c'est comme si je le représentais, et les gens le savent, et je leur ai dit que je suis un chrétien, et je ne peux pas l'abandonner, et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, pour son témoignage. Voyez-vous, David parle de sa conversion dans ce verset 3. Et ensuite, voyez au verset 4, voici un autre point, et j'accélère un peu, chers amis. Maintenant, il parle de l'expérience du croyant, celui qui croit en Dieu. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » De quoi est-ce qu'il parle ici? C'est l'un de ces ravins, et vous devez passer par ce chemin. Dans ces temps-là, quand vous vouliez aller d'une ville à l'autre, peut-être que la route passait par des endroits dangereux. Et peut-être qu'il y avait des ravins profonds à droite et à gauche. Mais c'est là le chemin, vous devez passer par ce chemin. Ce chemin est ouvert, mais peut-être qu'il y aura des bêtes sauvages, peut-être qu'il y aura des bandits. Il n'y a pas de lumière là, et cette vallée est peut-être trop profonde. Et la lumière n'y pénètre pas, c'est un endroit dangereux. Et les gens qui habitent ici racontent plein d'histoires de gens qui ont été attaqués par des bandits et blessés. C'est comme si vous passez là et que vous appréhendez et que vous êtes dans la crainte. Chers amis, qu'est-ce que David illustre ici? Ici, il parle de sa vie ordinaire. Il avait tant de problèmes en tant que roi, et nous lisons ces choses dans la Bible, nous lisons que les gens, même parmi la nation d'Israël, qui s'opposaient à David, et tous les problèmes auxquels il devait faire face, et nous lisons par rapport à la rébellion de son fils Absalom, et la guerre civile qu'il a amenée, et toutes ces choses qui se passent à la cour royale, il ne pouvait pas avoir un roi meilleur et un meilleur défenseur. D'abord, les Amorites, puis d'autres nations viendront pour les attaquer. Et lui est celui qui va les défendre, qui va persuader les gens de construire des défenses, des forteresses, et il va diriger les expéditions. Mais le roi David était puissant, mais nous lisons dans ses psaumes toutes ses maladies et tous les problèmes qu'il avait. Ainsi, il ne nous dit pas que sa vie était une vie facile. Il avait une position de responsabilité extraordinaire et constamment il y avait ses troubles et ses difficultés auxquelles il devait faire face dans sa vie. Et il illustre ceci par une grande vallée. La vie pour moi, dit-il, c'est comme passer par cette grande vallée. Quand vous êtes là, seul, et qu'il semble que vous n'avez aucun ami dans le monde, et tout va de travers, et vous avez des difficultés qui viennent de partout. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans ce monde, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est mon berger. Parce que j'ai un sauveur au ciel et un ami au ciel, et je peux crier à lui, s'il me tue, je sais que ceci va m'amener directement dans la vie éternelle avec lui. Mais il entend mes prières, il me défend, il me garde, et alors je suis restauré, et mes ennemis sont honteux, et la rébellion cesse. Et ceci me redonne la force et me réconforte. Et oui, ceci affecte ma vie terrestre. Peut-être les gens sont contre moi dans différentes circonstances, mais avec le Seigneur, vous avez la puissance de la prière. Vous avez un ami au ciel, vous avez Dieu avec vous. Et ceci parle de cette expérience de la vie chrétienne. Vous expérimentez le Seigneur toujours à nouveau, jour après jour, et il vous soutient et il répond à vos prières. Et il vous utilise également pour sa gloire. Il vous bénit. Ainsi, nous voyons ici que David ne manque de rien, spirituellement parlant. Son âme est restaurée par la grâce, par la faveur de Dieu qui n'est pas méritée, et il est soutenu dans son expérience par la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est symbole de la défense. Il me rassure. Je peux toujours prier et mon Dieu m'aidera. Il répondra à mes prières. Il répondra d'en haut. Et ensuite, David conclut parce que le temps passe. Le dernier point rapidement au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je vis avec cette grande certitude, cette anticipation, cette perspective qu'un jour je retournerai à la maison, dans la gloire céleste. J'irai dans la gloire. Le Seigneur me prépare mon futur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. C'est la certitude d'un roi qui est oint. Dans mon futur, ma coupe déborde, ma bénédiction déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur spirituel, la grâce spirituelle m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire « L'Éternel est mon berger » ? J'ai reçu cette faveur imméritée de Dieu, sa miséricorde, sa bonté. J'ai reçu le pardon de mon Dieu. Je me suis confiée en Christ, seul pour le salut. Et il me l'a donné. et il m'a renouvelé, il m'a donné une nouvelle nature et une vie nouvelle. Il entend mes prières et il répond à toutes mes prières dans cette vie présente. Et je sais qu'il me prendra à lui dans la gloire éternelle. Et ceci, c'est en nous confiant en Christ le Sauveur et en lui seul. Oh, repentez-vous de votre péché, demandez-lui de vous sauver, de vous donner cette expérience de cette conversion, la même expérience que ce grand roi David. Et alors, ce psaume, vous pourrez également le lire avec une grande joie et certitude dans votre cœur, dans votre vie. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, que cette expérience soit la nôtre, nous te prions. Mon Seigneur, fais grâce à chacun d'entre nous. Tu connais ceux qui sont tes enfants et ceux qui sont encore en dehors du royaume de ton amour. Seigneur, viens et descends et touche les cœurs, nous te prions. Bénis-nous, Seigneur, et amène les hommes et les femmes et les jeunes gens à toi pour qu'ils puissent connaître cette grande transformation, cette vie nouvelle. Nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur et pour sa gloire. Amen.